On va prier quand même quelques instants avant de commencer. Seigneur, je voudrais te présenter ces quelques instants que nous allons passer autour de ta parole. Ta parole est la vérité. Elle nous parle, elle nous convainc, elle nous fait du bien. Et nous en avons besoin. Et nous te prions ce matin, Seigneur, que tu puisses continuer, Seigneur, à faire ton œuvre en nous et nous aider à être des enfants fidèles, des enfants qui t'aiment, des enfants qui témoignent. Au nom de Christ. Amen. Alors, il y a quelques années, j'étais jeune. Je vois qu'il y en a certains qui sourient. C'est vrai que j'aurais dû dire, il y a quelques dizaines d'années, j'étais jeune. Ça aurait été mieux. Il y a donc environ une cinquantaine d'années maintenant, j'assistais à un club de jeunes. Je devais avoir, je crois, peut-être 16 ans, 17 ans, je me souviens plus. Il y avait plusieurs. Et il y avait un prédicateur qui est venu, un évangéliste. Son nom, vous le connaissez peut-être, pour certains, c'était André Adoul. Vous avez peut-être entendu ou lu certains livres de lui. Maintenant il est auprès du Seigneur, mais il était vraiment axé sur les cures d'âme auprès des jeunes, auprès des adultes aussi. Et alors il nous a posé une question. Et cette question, je vais vous la poser. On a eu du mal à trouver la réponse. Il a dit, à votre avis, à partir de quel âge doit-on penser au mariage? Alors moi j'étais jeune, c'est pas trop non plus, mais il y avait dans l'assistance, il y avait des jeunes qui avaient 20 ans, 25 ans, peut-être jusqu'à 30 ans même, et en tout cas la question a fait un peu débat et tout le monde se posait la question. Alors certains diront, bon, pour les jeunes filles il faut attendre au moins 20 ans, pour les garçons il faut attendre peut-être 25 ans ou 30 ans. Et puis certains disaient, ben non, mais il faut déjà avoir fait le service militaire, parce qu'à l'époque, on faisait du service militaire. Et puis d'autres disaient, il faut avoir un travail, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Et André Adoul, le missionnaire, nous a laissé réfléchir. Et après avoir réfléchi, il nous a dit, je vais vous reposer la question. Je ne vous ai pas dit à partir de quel âge on doit se marier, mais à partir de quel âge doit-on penser au mariage? Et alors là, nous étions tous là, et nous nous disions, oui, effectivement, on n'a pas vu ça comme ça, mais ça devient un peu plus compliqué. Et on ne savait pas quoi répondre. Et alors on attendait, en fin de compte, qu'il puisse au moins nous donner la réponse, au moins sa réponse. Et elle est venue. Et il nous a dit, on doit penser au mariage quand le cœur commence à faire boum boum. Et alors là, tout le monde a compris. Les plus jeunes ou les plus anciens, parce que quand le cœur fait boum boum, on doit se poser la question. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas s'amuser avec les boum boum. On ne doit pas s'amuser avec les sentiments. On ne doit pas s'amuser avec les sentiments, à rendre peut-être même malheureux parfois la personne qui est à côté de nous. Et quand il nous a donc donné cette réponse, d'un seul coup on s'est senti un peu concerné, tous. On s'est dit oui, mais en fin de compte, peut-être qu'il n'a pas tort, peut-être que c'est sérieux. Et c'est vrai que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas prendre à la légère. Alors bien sûr, on peut prendre à la légère, mais on ne doit pas prendre à la légère. Pourquoi? Le Seigneur est notre Créateur, nous le croyons. Et je crois aussi que les sentiments qu'on peut éprouver pour quelqu'un, quand le cœur fait boum boum, en fin de compte, c'est parce que Dieu l'a créé. Ça ne veut pas dire qu'on est pécheur. Si on ressent des sentiments pour quelqu'un, loin de là, mais on doit accepter que c'est la création de Dieu. Et en acceptant la création de Dieu, eh bien, il nous est, je dirais, normal, impératif, de présenter au Seigneur ces moments-là. Qu'on ait 16 ans, qu'on en ait 20, qu'on en ait 30, on doit présenter au Seigneur. Alors, peut-être ce matin, vous pensez que c'est pour les célibataires, ce que je suis en train de dire. Mais pas seulement. C'est aussi pour les parents. Et pourquoi? Parce qu'en tant que parents, on est responsable de nos enfants. Vous savez, comme on dit, quand les enfants sont petits, petit problème. Fais pas ci, fais pas ça, mets tes mains sur la table, dépêche-toi de te préparer pour aller à l'école, et ainsi de suite. Mais quand les enfants commencent à grandir, qui deviennent des pré-ados, les problèmes sont différents. Et alors, quand nos enfants deviennent adolescents, c'est encore pire. Et en tant que parents, en tant que mère, en tant que père, nous devons d'éduquer nos enfants. Alors, j'ai noté quelques versets que vous connaissez par cœur. « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » Psaume 119, verset 66. Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Et parfois, il faut bien reconnaître qu'en tant que parent, on passe un peu à côté. J'ai déjà remarqué, il suffit que je regarde ma vie parfois, mais les mamans, les mères sont plus attentives à ses enfants, à leurs enfants adolescents. Les pères, bien souvent, ils partent le matin, ils reviennent le soir, ils sont pas trop au courant, ils ne cherchent pas trop à savoir, ils se détournent un petit peu de la situation. Heureusement que maman est là. Heureusement que la mère est là. Et bien souvent, c'est vrai que c'est comme ça aussi. Alors, il faut néanmoins que nous puissions aider nos enfants, les guider, les conseiller, leur donner une direction à suivre. Alors, dans l'Écriture, il n'est pas question de cœur qui fait boum boum. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Dans ma concordance, j'ai cherché boum boum, j'ai rien trouvé. Mais je me suis rappelé d'un passage de l'Écriture, et c'est ce que je vais partager avec vous ce matin. C'est Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, c'est la rencontre d'Éliezer, serviteur d'Abraham, avec Rebecca. Rebecca qui va devenir l'épouse d'Isaac. Isaac qui est le fils d'Abraham, comme vous le savez. Et dans ce passage, il y a au moins trois conseils que Dieu met en évidence pour les uns et pour les autres, et pour les jeunes. Et si en tant que parents, on doit justement encourager nos enfants, on le trouve dans ce passage-là. Alors je vais lire, pas tout chapitre parce qu'il est trop long, mais au moins en deux parties, la Genèse chapitre 24. On va commencer au verset premier. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, et prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays ? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y emmener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et m'a juré en disant « Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son serviteur, et lui jura d'observer ces choses. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor, on va dire Charan maintenant. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, voilà, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Bien souvent, c'était les jeunes filles qui allaient puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie pour que je boive » et qui répondra « Bois » et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur !» Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-sicle, deux bracelets du poids de 10 sicles, et il dit « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit « Je suis fils de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur, moi-même. L'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter toutes ces choses à la maison de sa mère. Alors là, on va passer tout le restant et on va reprendre à la fin du chapitre, à partir du verset 57. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Alors ça, c'était sa famille. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Achaï-Roy, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda, Et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Mais qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Une belle histoire que le chapitre 24 de la Genèse. Alors, il y a ici dans ce passage, disons, trois conseils que je vais partager avec vous. Et avant, je voudrais vous raconter une histoire. Alors, c'est une histoire personnelle, ancienne, personnelle. Alors, pendant cette semaine, entre autres, j'en ai parlé avec Suzy. Je lui ai dit, je vais partager quelque chose au culte dimanche matin. Alors là, elle est en haut à l'école du dimanche, mais vous pouvez lui en parler après. Elle est au courant, elle sait que je veux dire. Il vaut mieux prendre parfois des mesures. Il y a donc un petit peu moins de 50 ans, 40, 48 ans peut-être. Attendez, on est mariés depuis 44 ans, donc ouais, on va dire 46 ans, 47 ans à peu près. J'avais ma voiture, je conduisais, et le mercredi soir, on allait à la réunion de prière, à l'église d'Orly, pour ceux qui ont connu l'église d'Orly, la réunion de prière. Et alors, je faisais un détour, j'allais chercher Suzy, là où elle habitait. Comme ça, elle pouvait participer aussi à la réunion de prière. Mais surtout, moi, j'étais content parce que j'étais pas tout seul. Elle se dit à côté, quoi. Voilà. Et quand on est reparti, après la réunion, on avait l'habitude d'emmener des sœurs, de les ramener chez elles. Et puis ce jour-là, il n'y avait personne. Donc on est reparti que tous les deux. Et depuis un petit moment, ça me... mais turlupiné un petit peu en disant, bon, il va bien falloir à un moment ou à un autre quand même que je parle à Suzy. Mais j'étais comme tout le monde, timide, et très timide. Alors à chaque fois que je repoussais, bon, ce sera pour la semaine suivante, ce sera pour un autre moment. Et ce soir-là, en rentrant, on est reparti donc en voiture, et vous savez, je priais en moi-même, sans... à voix plus que très basse. C'est mon cœur qui priait. Il disait, Seigneur, il faut que tu m'aides. Parce que je suis un petit peu bloqué. Seigneur, tu vois, il y a un feu qui se trouve un peu plus loin. Un feu rouge, il était vert. Et en moi-même, je dis, Seigneur, si tu veux que je m'adresse à Suzy, il faut que le feu devienne rouge. S'il reste vert, je suis obligé de conduire, je ne pourrais pas conduire. J'ai parlé comme ça au Seigneur. Et vous vous doutez que le feu est passé rouge. Et donc, il a fallu que je m'arrête, bien sûr. Et là, pendant quelques instants, quelques secondes, je me suis dit, Seigneur, je t'ai prié. Je t'ai demandé, voilà ce qui est arrivé. Il faut maintenant que tu me donnes le courage, la force de parler à Suzy. Et donc, j'ai parlé à Suzy ce soir-là. Alors, elle ne m'a pas donné de réponse ce soir-là. Il a fallu attendre un petit peu. Et quelques années après, on s'est mariés. Et c'est, en tout cas, la réponse que j'ai eue. Eh bien, cette histoire banale, on va dire, personnelle, banale, ancienne, c'est tout à fait ce qu'on trouve dans l'Écriture. Quand Éliézer, c'était le serviteur en chef, en quelque sorte, d'Abraham, quand Abraham lui a dit d'aller, Éliézer est parti, et vous savez, ils habitaient à Canaan. Canaan, c'est... Allez, on va dire, c'est le long de la mer, ça descend jusqu'à la comment? Comment ça s'appelle à l'heure actuelle? Enfin bon, c'est... Je cherche le mot. Bon, je ne vais pas le trouver. Comment? Non, non. Ils habitaient là, et il lui dit d'aller auprès de sa famille, c'est-à-dire à Charan, là-bas en Mésopotamie, dans la région de Ur, là où était originaire Abraham. Et en gros, il y avait, allez, entre 800 et 1000 kilomètres, à peu près. C'était pas à côté. Et donc, Eliezer a pris les chameaux, et il est parti, jusque là-bas. Alors, il ne nous a pas dit pendant combien de temps ils ont voyagé, mais à mon avis, ils ont voyagé pendant quelques jours, quand même, pour arriver là-bas. Et arrivé là-bas, Eliezer a prié. Il a dit, au verset 12, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles vont venir pour puiser l'eau. » Alors là, Eliezer a dit quelque chose qui peut sembler banal. Il a dit, la jeune fille à qui je vais demander à boire, et qui me donne à boire, ça sera déjà le premier signe. Alors, sans doute, s'il y avait eu 10 jeunes filles, il aurait demandé à n'importe quelle jeune fille, il lui aurait donné à boire, c'était un peu la tradition. Mais alors, il va adresser au Seigneur quelque chose de particulier. Il va dire que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruse, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée. C'est pas Eliezer qui dit, voilà, je vais demander aussi qu'elle puisse donner à boire aux chameaux, mais si la jeune fille dit, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, voilà ce qu'Eliezer a prié et qu'il a demandé. Mais je me suis dit, mais c'est autre chose, c'est un feu rouge. Un feu rouge, il y avait une chance sur deux, hein, qu'il devienne rouge, soit vert ou rouge. Mais là, dire que la jeune fille puisse dire, voilà, je vais aussi donner à boire à tes chameaux. Alors je me suis renseigné un petit peu. Quand les chameaux marchent pendant des jours comme ça, vous savez, dans le désert, ils ont l'habitude, ils peuvent marcher sans boire, en fin de compte. Mais par contre, quand ils arrivent à un puits, pour se ravitailler, un chameau boit environ 110 litres d'eau. Minimum. C'est ça. Et là, il y en avait 10. Donc, quand on fait la multiplication, c'est plus d'un mètre cube d'eau que la jeune fille, donc en l'occurrence Rebecca, a dû puiser pour donner à boire au chameau. D'une décision qu'elle-même a prise. Donc c'était pratiquement, je ne vais pas dire impossible, mais c'était quelque chose d'extraordinaire pour Eliezer. D'ailleurs, il le dit à plusieurs, on l'a lu à plusieurs endroits, il a été en quelque sorte émerveillé de voir que, comme Abraham avait dit, je mettrai un ange devant toi pour qu'il puisse aplatir le sentier. Et je repensais aussi, vous savez, il y a quelques semaines de ça, quand on a parlé de la femme samaritaine avec Jésus, quand Jésus s'est arrêté au bord du puits, là on avait quelques renseignements, le puits avait une profondeur d'environ 30 à 32 mètres. Alors, imaginez un petit peu, enfin, on voit bien quand on a levé hier le bidon de 20 litres de gasoil, c'est bon, il faut déjà faire un petit effort. Ça veut dire que pour puiser plus d'un mètre cube d'eau, il faut pratiquement faire entre 50 et 100 allers-retours. Aller puiser de l'eau, la lever, le verser. Et voilà ce que Rebecca a fait. pendant sans doute un certain temps, mais la force qu'elle a dû employer pour donner à boire comme ça, au chameau. Alors, je ne sais pas le puits, quelle était la profondeur de ce puits-là, il n'est pas noté, mais même si le puits avait 15 mètres de profondeur, ou 20 mètres de profondeur, vous voyez, pratiquement pendant une centaine de fois, descendre la cruche, la relever, il n'y a pas de treuil électrique, hein, c'est manuel, et puis verser de l'eau. Donc ce que Eliezer a demandé au Seigneur, c'était quelque chose, je ne vais pas dire d'impossible, mais pratiquement impossible. Et là, ça s'est réalisé. Et ça a été une merveille pour Eliezer. Alors, je vais vous demander de retenir trois noms ce matin, trois commandes. Trois mots. Le premier mot, il commence avec la lettre P. Quand on déplie un peu tout ma carte que j'ai fabriquée, on tombe sur le mot prière. Et ça, c'est le premier mot que le Seigneur nous invite à retenir. Prière. Prière. Vous êtes jeunes, priez. Le cœur fait boum boum, priez. Hein, ça paraît rigolo, mais c'est tellement évident. Parents, dites à vos enfants adolescents, priez. C'est le premier point. Celui qui ne prie pas, il passe à côté de bénédiction, de direction. Vous savez, l'écriture, elle est ainsi faite. Le Seigneur nous a donné des histoires, nous a donné des conseils, et il nous demande de méditer la parole. Et en méditant la parole, on doit retenir ce qu'il convient de dire et de faire. Le comment. D'ailleurs, il est dit à certains endroits, j'ai dû noter, qu'en fin de compte, Eliezer, qu'est-ce qu'il fait? Il parle avec le Seigneur. Ce ne sont pas des prières toutes faites, des prières, vous savez, bien structurées et tout. Non, il parle au Seigneur. Et je crois que quand on est jeune, bien sûr, on doit parler au Seigneur. On doit déverser au pied du Seigneur ce que l'on a sur le cœur, ce que l'on ressent, ce que l'on peut avoir à l'égard de quelqu'un. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, je pense toujours, moi, à Anne, vous savez, la mère de Samuel. Quand elle n'avait pas encore Samuel n'était pas encore né, elle était en train de prier. Et Élie, le prophète qui était là, il la regardait comme ça, mais il dit, elle est en train de comment ? Comment Oui, c'est ça. Et en fin de compte, c'est pas du tout ça. Anne était en train de... Oh, je vais pas dire de pleurer, mais de répandre son cœur devant l'Éternel. Et vous savez, quand on est plus jeune, ou tout ça, on a besoin de répandre son cœur. Il n'y a pas à faire de grandes phrases, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous connaît. Ils sont nos cœurs. Seigneur, je me répands devant toi. Je répands mon cœur devant toi. Ça veut dire que, Seigneur, j'attends de ta part une réponse. J'attends de ta part la solution. Vous savez, on dit souvent, vous connaissez le proverbe, la comment? L'amour rend aveugle. Quelque chose comme ça, on dit. L'amour rend aveugle. Des fois, c'est vrai. Mais quand on peut dire au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas quoi dire, mais je réponds mon cœur devant toi. C'est l'attitude que l'on doit avoir. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 16 C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. C'est pas écrit par hasard, cela. Il y a ici le deuxième mot. On peut dire que le Seigneur nous invite à retenir, en fin de compte, c'est que Rebecca était... Je mets mes petites choses, pas que je me trompe. Voilà. Ça commence encore avec la lettre P, donc c'est pas compliqué à retenir. Après la prière, c'est la pureté. La pureté. Rebecca était pure. Elle était vierge, mais elle était pure. Et vous savez que c'est pas quelque chose qui est d'actualité. Ouvrez la télé, vous verrez que c'est pas d'actualité. Ouvrez Internet, c'est pas d'actualité. Mais ça n'a jamais été d'actualité. À mon époque, il n'y avait pas d'Internet, mais il y avait déjà la télé. Et puis il y avait les comment? Il y avait les collègues, il y avait l'école, il y avait le travail. Il n'y a rien de pureté dans tout ça. On entend tellement de choses, on voit tellement de choses. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Et je dirais même que c'est une lutte parfois. Moi, j'ai souffert. Bon, je pense que vous souffrez aussi au travail, entre ce que vous entendez, ce qu'on vous dit. Et moi, je me souviens que qu'est-ce que j'ai souffert. Parce que j'avais ce désir de plaire au Seigneur, et ceux qui étaient autour de moi ne le faisaient pas du tout. Et donc j'étais obligé d'accepter, d'entendre. Je ne pouvais pas faire autrement. Et c'était une lutte parfois. Mais pourtant, la pureté, c'est probablement le plus beau cadeau qu'une jeune fille peut offrir à un jeune homme. C'est le plus beau cadeau qu'un jeune homme puisse offrir à une jeune fille. Il y a des beaux cadeaux, il y a des belles bagues, des belles alliances, et il y en a des questions aussi là dans l'Écriture. Mais la pureté, c'est sans doute le plus beau des cadeaux. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors peut-être vous vous dites, oui, mais j'ai failli. Une fois qu'on a failli, on ne peut pas revenir en marche arrière. C'est impossible. Alors il y a une bonne nouvelle dans l'Écriture. La bonne nouvelle dans 1 Jean, par exemple, chapitre 1er, verset 9, ou même à partir du verset 7. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Et le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous et pardonner. Et souvent, on oublie la fin du verset, et pour nous purifier de toute iniquité. Tu as péché, le Seigneur te purifie. C'est ça que ça veut dire. Parce que la grâce de Dieu, elle n'est pas à moitié, elle est totale. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Et ce matin, on peut dire, avec la grâce de Dieu, je suis juste, je suis pur, En tout cas, le Seigneur nous regarde comme des enfants purs si nous confessons notre péché et si nous nous humilions devant la face de Dieu. C'est sans doute la condition, bien sûr. Mais si c'est ainsi, eh bien le Seigneur nous purifie. Et je crois que, sans me tromper, le Seigneur nous regarde, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, et il nous voit pur. Pourquoi ? Parce que le sang de Christ nous a purifiés de toute iniquité. Si le sang n'avait pas coulé, si Jésus n'avait pas donné sa vie, s'il avait fait marche arrière à la dernière minute, oui, nous serions sans doute pas justes, pas purs à ses yeux. Vous savez, je pense à Naaman, le Syrien. Vous savez, celui qui a plongé 7 fois dans le Jourdain. Il avait la lèpre. Et puis quand, à chaque fois qu'il est remonté, il y avait encore la lèpre. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Élisée lui avait dit 7 fois. Il lui avait fait dire par la petite jeune fille. Quand il est ressorti, la 7e fois, non seulement la lèpre avait disparu, mais il nous y dit dans 2 Rois, au chapitre 5, au verset 14, « Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. » Parce que quand le Seigneur pardonne le péché, il nous rend purs. Et l'histoire de Naaman, le Syrien, c'était pour nous. C'était une préfiguration de ce que Jésus allait faire. Il nous rendrait purs. Il effacerait notre péché. Souvent, j'exprime en disant, vous savez, c'est un peu comme un tableau blanc qu'on a à l'école, vous savez, on écrit les péchés dessus, comme ça. Et alors le Seigneur, il prend la brosse, et il efface. Après, il n'y a plus rien. C'est plus ce que c'est. Quelqu'un qui rentre dans la classe ne veut pas savoir ce qui a été écrit, c'est effacé. Et bien, c'est ce que le Seigneur fait pour nous. La pureté. Alors, il y a un troisième mot que le Seigneur veut nous mettre à cœur ce matin. Et on le trouve à la fin, c'est pour ça que j'ai souhaité lire la fin, le verset 63. Il nous a dit, un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Donc Rebecca est devenue ensuite son épouse. Mais il faut savoir que... Ah, voilà, le mot déjà. C'est là, c'est le dernier. Alors c'est pas compliqué parce qu'il commence par P. Prière, pureté, et le dernier c'est la patience. La patience. Pourquoi je dis ça? Dans le verset 63 ici, quand il va rencontrer Rebecca, Isaac avait 40 ans. Il avait 40 ans. Il n'avait pas connu d'autres personnes. Pour ça, peut-être que Abraham, son père, commençait, je ne veux pas dire à s'inquiéter, mais le Seigneur lui avait fait une promesse en disant, c'est Isaac, le fils de la promesse. Et Abraham se disait, ben, oui, d'accord. Mais il est toujours célibataire. C'est pour ça qu'il a envoyé Eliezer. Et donc, Isaac avait 40 ans quand il a rencontré Rebecca. Et vous savez que Isaac et Rebecca ont eu 2 garçons. Les noms, vous vous souvenez ? Ésaü et Jacob. Et vous savez à quel âge ils ont eu leur enfant ? Jacob avait 60 ans. C'est-à-dire qu'entre le moment où il a rencontré Rebecca, à l'âge de 40 ans, il a fallu attendre 20 ans pour avoir des enfants. Ésaü et Jacob. Et en méditant ça, ces dernières semaines, là, cette dernière semaine, je me dis, d'un côté, il y a Eliezer qui vient, envoyé par Abraham, bien sûr, qui vient de prier le Seigneur, et il a à peine fini sa prière, que déjà Rebecca répond favorablement à sa prière. Et là, il a fallu attendre, alors, il a fallu attendre un bon moment, même dit, au moins que ce soit dans le chapitre 25 derrière. Oui, au verset 21 du chapitre 25, il nous a dit « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. » Et je me dis, mais il a attendu 20 ans pour que Dieu puisse lui accorder des enfants ? Alors que, avec la réponse de Eliezer et de Rebecca tout au début, on aurait pu penser que, ça y est, c'est fait, le Seigneur a accordé tout de suite la réponse favorable. Pourquoi attendre encore 20 ans? Alors sans doute que le Seigneur, oui, a fait passer Isaac par des épreuves, là, de ce côté-là, et il a fallu que Isaac implore vraiment le Seigneur, mais je pense à Abraham. Parce que quand Jacob avait 60 ans, Abraham avait environ 160 ans. Puisqu'il a eu, il a eu Isaac à l'âge de 100 ans, en même temps que Sarah. Sarah avait 100 ans. Et Abraham est décédé à l'âge de 175 ans. Donc il a vu quand même la réponse. Isaac a eu quand même ses enfants. Il a imploré l'Éternel pendant toutes ces années-là. Vous savez, la patience, c'est bien quand on a la réponse après. Disant, ben voilà, j'ai été patient. Le Seigneur m'a fait passer par des difficultés, j'ai combattu le combat, et le Seigneur m'a donné la réponse. Mais au moment où on passe par les épreuves, c'est toujours difficile. Et moi, je pense toujours parfois à des jeunes, des personnes en tout cas, qui passent par des difficultés. Je me souviens d'une jeune fille que j'ai connue il y a longtemps. Quand elle avait un désir, c'était de se marier. C'était tout à fait normal. Et plus le temps passait, plus elle ne trouvait pas. Et plus elle passait, et plus elle disait « c'est difficile ». Plus le temps passe, elle disait « plus c'est difficile ». Puis un jour, Dieu a permis, elle a rencontré quelqu'un, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Il a mené donc son existence. La patience nous apprend bien des choses, mais elle nous apprend surtout à implorer le nom de Dieu. Vous savez, le comment? Là, dans cette histoire, en fin de compte, c'est la volonté spécifique qu'on appelle. La volonté spécifique. Isaac a prié, il a demandé au Seigneur, le Seigneur lui a accordé, mais c'est parce que ça le touchait spécifiquement pour lui. Sa prière, c'était pour lui, c'était pas pour tout le monde. On passe pas tous par les mêmes épreuves, mais à travers cette épreuve, elle était vraiment spécifique. Et je pense toujours à Proverbe 16, verset 7, et sans doute vous aussi, Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même si... Ça, c'est la promesse pour nous, ça. C'est la promesse pour nous. Il dispose favorablement à notre égard. Même nos ennemis. Et ça, c'est la promesse que, je veux dire, que le Seigneur veut nous faire, veut nous donner ce matin aussi, c'est d'avoir confiance en lui, de nous reposer sur lui. Et c'est vrai que quand on se repose sur le Seigneur, c'est pas facile. Mais c'est une bénédiction. Surtout quand la bénédiction arrive. Des fois, on entend dans le témoignage que vous avez, les réunions prières, dire « Voilà, j'ai prié, et le Seigneur a répondu. » Enfin, je pense à Erika, quand on a prié pendant un bon moment pour qu'elle ait un travail, avec quoi être découragée, puis un jour, le Seigneur a répondu favorablement. Et quand le Seigneur répond favorablement, comme vient de le dire à l'instant, « Amen !» Amen. C'est une bénédiction. Que le Seigneur puisse nous aider donc à avoir des bénédictions. Mais je rappelle la prière, la pureté et la patience. Que cette histoire de Genèse chapitre 24 nous aide à accepter déjà. Et aussi à le partager, que ce soit bon, je veux dire, vis-à-vis de nos enfants, mais ça peut être un cousin, une cousine, une nièce, un neveu, un petit-enfant, quand on est grands-parents, on pense aussi à nos petits-enfants, de pouvoir leur dire, leur rappeler ce que l'Écriture dit. Prie, sois pur et sois patient. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole ce matin.